Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou d'avoir pris part à ce tour d'horizon via radiovienouvellefm.com. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de plusieurs sujets d'actualité. Et oui, je vais parler de Jean Charest qui se dit favorable à une constitution pour le Québec, de Pauline Marois qui ne voulait pas faire de référendum, de Justin Trudeau qui veut transformer la constitution du PLC, de cannabis. Effectivement, il y a un colloque pour mettre en garde les décideurs, de la Pologne qui manifeste contre un projet d'interdiction totale de l'avortement, de foi et de science, l'impossible alliance. Et qu'est-ce qui pousse les hommes à se taire? Eh oui, mesdames et messieurs, plusieurs sujets font partie de cette émission d'aujourd'hui. Jean Charest se dit favorable à une constitution pour le Québec. Ce qu'on nous dit sur la presse, c'est s'il y avait eu une constitution qui avait existé, par exemple, en 2013, lorsque le PQ a présenté la Charte des valeurs, eh bien, à ce moment-là, le Parti québécois aurait eu meilleure figure. Moi, j'ai toujours cru, mesdames et messieurs, à une constitution pour le Québec. Oui, moi, j'ai toujours cru à ça. Plutôt que de faire l'indépendance, on devrait mieux se définir. Quel genre de Québec on veut? Parce que c'est quoi la différence entre des lois et une constitution? La constitution, ce sont les règles du jeu. Les lois ne doivent jamais aller à l'encontre de notre constitution. En d'autres mots, là, c'est comme la Bible du pays. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait ne doit jamais contredire notre Constitution. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas voter oui à un référendum sur la question suivante, est-ce que le Québec devrait devenir un pays? On ne peut pas dire oui à cette question-là, on ne peut pas répondre oui à cette question-là, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Et Jean Charest a mis le doigt dessus. Il faut qu'on aille une constitution dans laquelle y est intégrée la Charte de la langue française, la Charte québécoise des droits de la personne. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a une constitution, le Québec voterait par voie de référendum en disant « Est-ce qu'on veut cette constitution, oui ou non? » Et là, si on a cette constitution-là, à ce moment-là, on sait où est-ce qu'on s'en va comme nation. Et ça, c'est une chose très claire. Donc, lorsqu'il y aura un référendum sur la question nationale, à savoir si le Québec va devenir un pays ou non, eh bien, au moins, on aura une constitution pour savoir est-ce que c'est dans cette direction-là qu'on va. Et si, par exemple, le projet de pays, le projet du Québec pour devenir un pays, vise à ce qu'on ait une constitution différente, mais là, à ce moment-là, ça sera indiqué clair, net et précis. Et c'est pour ça que, sachant que les Québécois ne voulaient pas faire du Québec un pays, Pauline Marois, elle, ne voulait pas faire de référendum si elle avait été réélue comme première ministre. C'est ce que nous révélait justement le Journal de Montréal hier. On nous dit « Je ne crois pas que nous ne pourrons annoncer la tenue d'un référendum dans le prochain mandat. Le contexte n'est pas là », a affirmé la première ministre de l'époque lors d'une rencontre privée en août 2013, révèle son ancien chef de cabinet adjoint Dominique Lebel dans un ouvrage publié aujourd'hui. Et ça a été publié hier, effectivement. Et donc, c'est clair que les Québécois, en majorité, ne veulent pas d'un référendum sur la question nationale. Moi, personnellement, je proposerais beaucoup plus un référendum, une consultation populaire sur la place du Québec. Par exemple, est-ce qu'on veut que le Québec soit une nation avec plus d'autonomie? Est-ce qu'on veut que le Québec devienne un pays? Est-ce qu'on veut que le Québec, par exemple, devienne un département français, donc un peu comme une province de la France? Est-ce qu'on veut qu'il devienne un État américain? Alors, on pose 4 ou 5 questions. On fait le tri là-dedans. Et dans un deuxième tour, on prend les 2 les plus populaires, on vote. Et après, pour une période de 10 ou 15 ans, eh bien, peu importe qui sera au pouvoir, il devra défendre ce que le peuple a voulu. Maintenant, ça, c'est ma vision des choses. Au moins, ça serait beaucoup plus près de la population plutôt que de leur imposer, plutôt que de nous imposer 1 ou 2 choix. Eh bien là, à ce moment-là, c'est nous vraiment qui décidons où est-ce qu'on s'en va. Alors, mais je vois que le temps file. On aura la chance d'en reparler. En ce qui concerne Justin Trudeau, lui, c'est pas la constitution du pays ou la constitution du Québec. Lui, il veut transformer la constitution de son parti politique. Ben oui, Justin Trudeau ne veut plus de membres dans son parti. Il veut des idées. Il veut que tout le monde puisse s'exprimer puis s'impliquer. Il veut, par exemple, que n'importe qui puisse se prononcer sur les enjeux sociaux que devrait défendre le Parti libéral. Et les idées qui seront retenues vont être débattues lors des conventions. Pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'au bout de la ligne, ça va être les militants qui vont se rendre aux conventions, qui vont décider. Et l'autre chose qui, pour moi, fait que ça n'a pas nécessairement de sens, c'est pas que c'est pas intelligent, mesdames et messieurs, mais c'est juste que c'est pas cohérent, à mon avis. Pourquoi? Parce que, par exemple, Justin Trudeau ne veut pas de pro-vie ou de revendication, pro-vie dans son caucus. Donc, aucune personne qui s'identifie comme étant pro-vie sera nommée ministre, à moins qu'il taise ses convictions. Donc, de dire qu'on est ouvert à tous nos commentaires, eh bien, je ne suis pas prêt à acheter ça parce qu'il serait ouvert à ce que des gens pro-vie puissent militer dans son parti, mais il a fermé la porte d'une manière assez radicale là-dessus. Donc, c'est pour ça que je remets en doute ses motifs là-dedans. Un autre aspect qui touche le Canada, parce qu'on vient de parler de Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, et que lui-même aura à faire face à cette réalité puisqu'il a promis qu'il y allait avoir une loi, une législation qui ferait en sorte que la consommation du cannabis, du pot, de la marijuana serait devenue légale au Canada. Maintenant, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques qui se sont réunis, qui se réunissent aujourd'hui même pour débattre de la question et pour présenter des résultats de recherche. Donc, on voit ça dans Le Devoir aujourd'hui, sous la plume de Pauline Gravel. Et donc, les scientifiques veulent mettre en garde le gouvernement Trudeau de légaliser le pot. Parce qu'on a fait des recherches et on a observé sur 295 garçons pendant 25 ans. Donc, ils ont commencé à les observer à l'âge de 5 ans et ils ont fini l'observation à l'âge de 30 ans. Donc, sur une période de 25 ans. Puis ils ont vraiment constaté que le cerveau des adolescents est beaucoup plus vulnérable que celui des adultes. Et ceux qui avaient commencé à consommer de la marijuana avant l'âge de 17 ans, ils ont remarqué une détérioration de leur quotient intellectuel, de la difficulté dans des tâches faisant appel à l'apprentissage par essai-erreur, puis un traitement inapproprié des récompenses. Et en plus, ils ont échoué à obtenir leur diplôme d'études secondaires pour la majorité d'entre eux qui ont consommé avant 17 ans. Donc, chez un jeune, il y a plus de risques. Et évidemment, il y a une dépendance qui est à risque à ce moment-là, une dépendance aux drogues qui est plus élevée qu'à l'âge adulte. On nous dit également dans cet article que le cannabis perturbe le développement du cerveau des adolescents à risque et peut risquer de développer la schizophrénie. Et donc, il y a énormément d'éléments intéressants à lire dans cet article et à apprendre. Et donc, on voit que oui, ceux qui consomment la marijuana, ils découvrent un plaisir, sinon les gens n'en consommeraient pas. Mais il y a également des méfaits et c'est pourquoi les scientifiques veulent mettre en garde le gouvernement de ces méfaits-là. Et il n'y a pas seulement des gens qui s'opposent à la consommation de la marijuana, mesdames et messieurs, mais il y a des gens qui vont manifester contre un projet de loi sur l'avortement. Et ça, ça se passe en Pologne, mesdames et messieurs. On en parlait dans la presse hier, mais et qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? On nous dit que le Parti nationaliste et conservateur Droit et Justice détient la majorité au Parlement et serait en position d'amender la loi si tous ses députés soutenaient un tel changement. Le parti a remporté les élections l'an dernier en promettant de profonds changements dans le pays, notamment le retour aux valeurs catholiques traditionnelles. On en parle également sur la plateforme actualité-israël.com. Donc, sans accent aigu, sans point tréma, actualité-israël.com. Et dans cet article, on voit que plusieurs milliers de personnes qui se sont réunies devant le Parlement polonais à Varsovie sont mis à contester la loi. Pourquoi? Parce qu'il réduirait l'accès à l'avortement. En ce moment, ce qui se passe en Pologne, c'est une loi qui ressemble à celle qui a été votée récemment au Chili. Et donc, il y avait trois raisons depuis 1993 qui faisaient en sorte que l'avortement pouvait être légal. C'est que s'il y avait un risque pour la vie et la santé de la mère, si suite à un examen prénatal, il y avait une indication qui démontrait qu'il y avait une pathologie irréversible chez l'embryon et suite à une grossesse résultant d'un viol ou d'une inceste. Donc, c'était les trois points. La vie ou la santé de la mère est en danger. Il y a une indication grave ou pathologique qui est irréversible chez l'embryon et il y a une grossesse qui résulte d'un viol ou d'une inceste. Maintenant, ce qu'on veut, le nouveau texte de loi, il propose que on autorise uniquement l'avortement si la vie de la mère est en danger. Et c'est pour ça que les groupes de gauche manifestent contre ce projet de loi potentiel parce que ça réduirait justement l'accès à l'avortement. Maintenant, à cause qu'il y a seulement trois raisons à l'heure actuelle pour laquelle une femme est en droit de se faire avorter en Pologne, eh bien, ce qu'on nous dit, ce qu'on estime, et ça, c'est des estimations qui sont données par les organisations féministes. Les organisations féministes estiment qu'il y a entre 100 000 et 150 000 femmes qui procéderaient clandestinement à un avortement chaque année, soit dans des cabinets en Pologne ou soit dans des cliniques allemandes, slovaques ou autrichiennes. Et ça, c'est beaucoup, ça. Parce qu'ici au Canada, c'est entre 27 et 30 000 avortements par année. Imaginez, c'est environ 4 à 5 fois plus élevé pour un pays qui est sensiblement le même nombre en population. Et ça, mesdames et messieurs, c'est énorme. C'est énorme. Mais les avortements qui sont pratiqués de manière légale, eh bien, vont s'élever entre 600 et 1800 par année. Écoutez, il y a une très grosse différence. Maintenant, ça démontre une chose, ça confirme ce que nous disait Richard Martineau il y a quelques années, c'est que l'avortement est devenu, pas seulement au Canada, mais partout à travers le monde, non pas comme une intervention de dernier recours, justement, où est-ce que la vie de la mère est en danger, où est-ce qu'il y a eu un viol, où est-ce que, justement, il y a une pathologie irréversible chez l'embryon. Non, c'est devenu un moyen de contraception, comme les autres. Et c'est ça qui est malheureux, mesdames et messieurs. C'est très malheureux. Et donc, il y a de la grogne dans ce pays. Je vois que le temps avance. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Je vous invite à lire l'actualité.com. Il y a un article « Foi et science, l'impossible alliance ». C'est malheureux parce qu'on nous dit que la science et la foi ne peuvent pas justement vivre une alliance. Alors, pour moi, je me dis, les deux vont ensemble. La science va confirmer ce que Dieu dit dans sa parole. Et ce qu'on peut conclure, lorsqu'on lit cet article d'une manière objective, eh bien, c'est que la science a épousé une philosophie Et c'est pourquoi que beaucoup de scientifiques ont adopté l'approche de Thomas Huxley, qui a inventé le mot agnostique au milieu du 19e siècle, justement pour se positionner sur le plan philosophique en science. Et moi, j'invite les gens qui sont, par exemple, des créationnistes scientifiques sérieux, crédibles, à se prononcer sur la plateforme de l'actualité pour réagir à cet article. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se taire? Eh bien, rapidement, c'est vraiment intéressant comme article sur la plateforme du Figaro. On voit qu'il y a un manque d'éducation émotionnelle très fort chez les hommes pour exprimer leurs sentiments. Ça, tout le monde le sait. Ne sachant ni gérer leur colère ni leur tristesse, le moyen meilleur d'y faire face pour eux, selon l'article, c'est de garder le silence. Mais ce qui est intéressant, c'est que le meilleur moyen pour débloquer un homme, ce qu'on nous révèle pour qu'il puisse apprendre à exprimer ses émotions, c'est de lui faire dire ce qu'il ressent lorsqu'il touche l'épaule ou la main de sa femme. Et ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs, à lire. Et donc, on retrouve 4 types de silencieux: le taiseux, le mystérieux, l'inhibé et l'hostile. J'aurais aimé ça vous parler de d'autres sujets en rafale, mais puisque le temps nous manque, eh bien, je dois clore à l'instant cette émission. Sur ce, chers auditeurs, si vous désirez poursuivre la discussion, si vous aimeriez échanger avec moi, eh bien, vous pouvez le faire via le blogueur à commercial ericlantier.net. C'est le blogueur à commercial ericlantier.net. N'oubliez pas qu'à partir du 11 avril, cette émission sera diffusée du lundi au vendredi à 16h, toujours sur les ondes du 92,7 FM et sur radiovinouvellefm.com. En terminant, n'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou radiovinouvellefm.com. Je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante: leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!